nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants, il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais, sa tombe avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. Jusqu'ici, la parole de Dieu. De quoi parle ce texte? Ce texte parle de Jésus. Jésus qui est mort, et on le voit bien quand on lit les versets 7, 8, on voit vraiment les souffrances qu'il a subies. Il a été percé, il a été brisé. On reconnaît ce qui s'est passé à la croix. Et puis, il y a ces détails avant qu'il a été silencieux, qu'il a supporté l'injustice. Tout ça, on l'a retrouvé dans les textes qu'on a lus pour le Vendredi Saint. Ce qui est surprenant, c'est que cette annonce frappante du sacrifice de Jésus, elle a été faite 8 siècles, entre 8 et 7 siècles avant que Jésus ne vienne. C'est là que vivait le prophète Ésaïe. Et tout ce temps avant, il l'annonce, et il l'annonce parce que cette mort, elle a un sens. Cette mort, ce n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui a mal tourné. Cette mort, elle fait partie du plan de Dieu. Dieu l'a voulu. Pourquoi Dieu l'a-t-il voulu? La signification est donnée. Christ est mort pour nos péchés. Il a pris nos péchés, il a payé le prix de nos péchés à notre place. Alors quand je dis ça, peut-être ça fait tiquer. Le péché, ce n'est pas à la mode. On n'est pas dans une société où le péché a bonne presse. Le péché, c'est la culpabilité et on reproche suffisamment à l'Église, à l'éducation judéo-chrétienne d'avoir fait peser une culpabilité sur la société. on n'aime pas la culpabilité, on s'en moque aussi, on se rit du péché. Le péché, on le réduit à la gourmandise ou à la sexualité, à ce qui fait plaisir. Les chrétiens n'aiment pas le plaisir, ils jugent cela coupable. C'est décalé de parler du péché. Mais ici, Ésaïe parle du péché en le comparant à quelque chose de précis et quelque chose d'interpellant. Il parle de maladie. Certaines traductions utilisent le mot souffrance. C'est souffrance dans la souffrance du malade qui porte sa maladie et qui en souffre. Maladie, souffrance, irritation, douleur. Ainsi, le péché est comparé à une maladie. Et la maladie, il me semble, on connaît. Voilà un an qu'on vit avec une maladie, la Covid, une maladie bizarre. Bizarre parce que certains n'ont que très peu de symptômes, certains en ont aucun. Et d'autres, chez d'autres, ça prend des formes graves qui peuvent entraîner la mort, et puis ça frappe un peu au hasard. On voit que les personnes âgées sont plus fragiles, mais des jeunes peuvent être également gravement touchés. Une maladie qui se transmet. On ne maîtrise pas totalement comment, mais qui se transmet de façon efficace, puisque le monde est largement touché. Et que nous soyons malades ou non, cette maladie impacte notre vie. Si vous êtes devant moi portant un masque, c'est à cause de cette maladie. Nous avons de nouveaux gestes à faire, de nouveaux gestes à éviter, fameux gestes barrières. Il y a des limitations, des choses qu'on ne peut plus faire. Une véritable perte de liberté et qui nous pèse. Voilà un an que nous vivons avec ces limitations. Et notre vie est abîmée. Notre vie est limitée. La maladie a des conséquences sur tous. Habituellement, une maladie, ça se soigne. On va chez le médecin, il nous donne un remède, un traitement, on le suit, et puis ensuite on peut oublier, passer à autre chose. Mais là, cette maladie, elle ne se soigne pas. Pas encore, mais elle ne se soigne pas. La seule manière de l'éviter, c'est d'adapter son comportement. Appliquer les gestes barrières, ce n'est pas nouveau comme solution. Dans l'histoire, on l'a déjà vu. Il y avait les lépreux qui étaient isolés. Lorsque la peste a frappé, les pestiférés avaient une cloche pour qu'on les repère, pour qu'on puisse les éviter. Éviter le contact avec les malades, la seule chose qu'il reste. Dans une des nombreuses interventions du gouvernement, j'ai entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire qu'un malade n'est pas coupable, mais un malade est une victime. Et d'un côté, c'est vrai. Le coupable, l'ennemi, ce n'est pas le malade, c'est la maladie. Et tous les malades sont victimes de la maladie qui les ronge. Mais de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui vient titiller, parce que si on met en place des gestes capables d'éviter la maladie, alors quelque part, celui qui l'attrape, est-ce qu'il a réellement appliqué tous ces gestes? Et celui qui transmet la maladie, les a-t-il également appliqués? Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qu'ont fait les youtubeurs McFly et Carlito, commandés par le président. dans la chanson qu'ils ont faite, ils s'excusent de ne pas avoir réussi à respecter les gestes barrières. On en est tous au même point. Il y a des gestes à appliquer, mais on peine à les appliquer. Et si on peine à les appliquer, on est tous un peu coupables. Coupables d'autant plus si on réfléchit à l'origine de cette maladie. Je lisais qu'il est quasiment certain que cette maladie soit d'origine animale. Est-ce qu'il y a eu des pratiques imprudentes? Je me souviens du film Contagion de Steven Soderbergh, qui raconte une épidémie qui se répand à toute vitesse dans le monde, faisant d'énormes dégâts. Un film assez troublant à regarder avec le recul de la pandémie qu'on traverse. Et dans son film, Steven Soderbergh prend l'hypothèse d'une déforestation sauvage, d'animaux dérangés, et que ce soit ça qui transmette la maladie dont parle son film. Même si on n'agit pas directement pour bousculer, pour déranger la faune, on fait partie d'un système qui vise toujours plus de gains, parfois au mépris du raisonnable. Finalement, je trouve que cette comparaison avec la maladie et celle que nous connaissons aujourd'hui parle assez bien du péché. Le péché est un mal présent dans notre monde et qui l'impacte. C'est quelque chose qui cause une souffrance réelle, une souffrance présente dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, dans les intérêts divergents qui nous mettent en lutte pour obtenir ce qu'on veut, aux dépens des autres, de façon directe ou indirecte. Souffrance qui se manifeste pas chez tout le monde de la même façon, hein, on n'a pas tous les mêmes symptômes. Certains arrivent à conduire leur vie à peu près, quand d'autres se débattent avec des séquelles terribles. Certains connaissent des addictions et sont dominés par elles. D'autres connaissent une vie relativement douce. Nous ne sommes pas tous égaux face aux effets de cette maladie qu'est le péché, mais nous la connaissons tous. Et cette maladie qu'est le péché est également contagieuse. À force de le voir se développer autour de nous, à force de se baigner dedans, eh bien on l'attrape. On contribue par nos propres actions, nos propres comportements. On contribue à sa présence dans le monde et à son expansion. On contribue de façon différente. Certains s'arrangent un peu avec la vérité, avec ce qui est bon. Quand d'autres sont dominés par cela, abusent les autres, traumatisent, produisent des séquelles qui durent. Mais c'est la même maladie présente chez tous. Et à force de voir chacun se comporter comme bon lui semble, on se demande, pourquoi pas moi ? Et on y va, de son petit égoïsme ou de son gros égoïsme. Résultat, on vit dans un monde abîmé avec des conséquences sur les relations, sur l'environnement, sur ce que chacun porte et traîne avec lui. Et ce n'est pas comme si on pouvait dire « chaque jour est nouveau, on va recommencer, repartir à zéro ». Les offenses restent difficiles à pardonner. La confiance difficile à restaurer. Les conséquences difficiles à effacer. Ce qui est abîmé n'est pas facile à réparer. On vit avec ça. On subit les conséquences et pire, on continue de les transmettre, de transmettre cette maladie. Alors, quel remède ? Depuis tout ce temps où l'humanité est là et se débat avec ça, quel remède ? On essaye. Il y a la solution des Lumières par l'éducation. Si on explique ce qui se passe, ce qu'il est en train de faire, l'homme préférera, motivé par l'intérêt commun. L'homme arrêtera, motivé par cet intérêt commun dont il bénéficiera. On essaye, mais ça ne marche pas. On essaye la solution humaniste par l'action. Si on fait du bien aux autres, qu'on les sort de leur pauvreté, de leur misère, qu'on réduit les inégalités, on supprime les tensions, plus besoin d'être agressif. Et ça ne donne pas de résultat. Il y a la solution du développement personnel. Si on s'écoute, qu'on se connecte à ce qu'on ressent, qu'on se respecte, on sera mieux dans sa peau, plus besoin d'être aussi en tension, agressif avec les autres. Ces trois voies produisent de bonnes choses. Être informé des conséquences de ses actions et de l'intérêt commun, travailler à réduire les inégalités, se connaître pour ne pas se mettre dans des situations compliquées. Ce sont de bonnes choses, mais elles ne changent pas notre monde. Le problème est toujours là. On ne peut pas dire que l'épidémie fléchisse. Dieu a aussi une solution. Dieu ? Oui, Dieu. Si on a tout essayé, on peut peut-être écouter ce qu'il a à nous dire. La Bible nous dit que Dieu a tout créé et que quand il a tout créé, les choses étaient bonnes. Mais l'homme a introduit le péché dans la création. Il a choisi de ne pas écouter Dieu. Il a choisi de n'en faire qu'à sa tête. Je sais ce qui est bon pour moi. Et quelles conséquences ? La Bible raconte l'escalade du péché après la première désobéissance, le premier égoïsme. Il n'y a pas longtemps avant la première jalousie, le premier meurtre, puis le mal qui se répand sur terre. La souffrance, nos maladies. Et la Bible dit qu'il faut payer. Il faut faire face aux conséquences de ce que nous faisons. Il nous faut rendre des comptes. Il nous faut subir le verdict. Parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas juste tout nettoyer, tout nettoyer ? Je crois que on ne mesure pas l'impact du péché, de combien il est grave, de combien il a abîmé la création, de combien il nous a éloignés de Dieu. Il faut payer et l'addition est lourde. Le texte que nous avons lu, ce texte du prophète Ésaïe, nous dit que Dieu envoie un serviteur. Un serviteur pour payer, pour prendre la punition qui nous revient. Et alors, nous sommes libérés. Notre dette est effacée. Nous sommes libérés de ces maladies, de ces souffrances. Je vais relire ce verset, tellement beau, le verset 5. Il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Si Dieu nous dit qu'il est satisfait par ce sacrifice, qu'ainsi la dette est payée, alors nous ne pouvons qu'entrer dans ce plan. Ce serviteur, nous l'avons identifié, c'est Jésus. Jésus qui a dit dans l'évangile de Jean, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. » Ceux qui croient en Jésus, qui acceptent leur culpabilité, qui acceptent la part qu'ils prennent au péché du monde et qui s'en remettent au sacrifice du serviteur, qui acceptent qu'il paye pour eux, ceux-là sont guéris. Ils sont guéris, c'est une espérance. Parce que nous sommes aujourd'hui entre l'annonce de la guérison et la réalisation. Un peu comme avec notre virus aujourd'hui, où on attend tant du vaccin, qui est là, mais dont nous ne bénéficions pas encore. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Elle est là, notre espérance. Il a été annoncé, Jésus a dit qu'il reviendrait, et que ce jour-là, il fera toute chose nouvelle. Ce jour-là, le péché ne sera plus. C'est ça que nous attendons. Non pas notre transformation, non pas notre capacité d'améliorer les choses, de trouver la solution. Nous attendons le retour de Christ et le changement radical qui suivra pour le monde. Comment croire en cette promesse ? Dieu, faudrait-il encore qu'il existe ? C'est affaire de foi. À chacun de se positionner et de saisir ou non l'invitation. Mais j'aimerais dire que nous avons quand même des éléments. Nous avons ces témoins qui nous rapportent ce que Jésus a fait. Nous avons ces prophéties qui, avant, annonçaient, des siècles avant, ce qui allait se passer. Et nous avons autour de nous, qui nous ont précédés, qui vivent avec nous, des croyants qui vivent un avant-goût de cette délivrance en attendant qu'elle soit complète. Victime ou coupable ? Victime du péché que nous attrapons et qui nous fait souffrir définitivement. Mais aussi participant à ce péché, à sa prolifération. Et donc coupable. Qui nous délivrera de cette mauvaise spirale ? Je crois qu'il y a une bonne nouvelle que nous avons lue dans ce texte d'Ésaïe et ce texte qui nous annonce que nous sommes guéris. Jésus est venu. Le serviteur a rempli son office. Nous sommes guéris. Tout n'est pas encore réalisé, c'est une espérance, mais la Bible nous le promet, et le miracle de la résurrection, confirmé par de nombreux témoins, vient assurer la promesse. Il y a une bonne nouvelle, à condition de se reconnaître malade. Comme certains nient le coronavirus ou sa gravité, certains nient le péché. Ce n'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas de problème. Et que dire de ceux qui sont conscients qu'il y a un problème, mais qui ne font rien ? Et que dire de ceux qui sont au courant du remède, mais ne le prennent pas, ne l'appliquent pas ? Pire encore, de celui qui prendrait le remède, qui en prend les apparences, mais qui ne le vit pas dans sa vie. Les conséquences sont bien plus graves. Le sacrifice a été fait, la main de Dieu est tendue à travers Jésus-Christ. La bonne nouvelle est là, elle est là pour nous, elle est là pour vous, à condition de la saisir. Nous allons prendre un temps de réflexion conduit par Jonathan, qui va nous chanter un chant.